Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'infos. Il est 22h. Merci d'entamer votre week-end avec Europe 1.
D'abord, ce que nous disent les scientifiques, c'est que le couvre-feu fonctionne. Et donc là, nous prenons des décisions sur 15 départements.
La liste est donc tombée. Un quart nord-est de la France, plus les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes en couvre-feu avancé à partir de demain. Nous irons dans la Marne, où les habitants se préparent, et on verra quelle souplesse aura le dispositif pour les retours de vacances. Plus de 2000 teufeurs toujours rassemblés près de Rennes, alors que les gendarmes attendent des renforts pour cette nuit. On fera un point sur la situation à Lieuron et sur les possibilités ou non d'évacuation. Dans ce journal également, le premier jour du reste de la vie entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. On fera le bilan de ce jour 1 du Brexit à Calais avec les nouvelles formalités douanières. L'année 2021 sera l'année du rebond selon les économistes. Toutes les raisons d'y croire et de retrouver un peu d'optimisme. La traditionnelle prière de l'Angélus du pape François en ce jour de l'an et journée mondiale pour la paix. Enfin, qui s'offrira le Messi arrivant en fin de contrat avec Barcelone? Lionel Messi pourrait théoriquement quitter son club de toujours. À 22h20, l'interview La France bouge d'Emmanuel Dutheil et Elisabeth Assayag, l'ancienne avocate devenue humoriste Caroline Vigneault. Pas de bourse ce soir, jour de l'an oblige, mais un peu de musique encore. Et vos prévisions météo pour demain avec Anissa.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On attendait la liste précise des départements placés sous couvre-feu avancé à partir de demain. Elle a donc été donnée par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à la mi-journée. 18h, tout le monde à la maison dans un large quart nord-est, les Ardennes, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Haute-Saône, les Vosges, le territoire de Belfort, la Moselle, la Nièvre et la Saône-et-Loire. Et puis plus au sud, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. On écoute Gabriel Attal.
D'abord, ce que nous disent les scientifiques, c'est que le couvre-feu fonctionne et que celui qui avait été mis en place avant le confinement, le deuxième confinement, au mois d'octobre, a eu des effets importants. Et pourquoi il fonctionne? Parce que quand vous mettez en place un couvre-feu, vous limitez les interactions sociales qu'on peut avoir dans un cercle privé et on sait que c'est par là que le virus se diffuse le plus. Et donc, en avançant à 18h, par définition, vous limitez encore plus ces rencontres. Là, nous prenons des décisions sur 15 départements. Et dans une semaine, nous ferons le point sur les effets de ce couvre-feu avancé dans ces 15 départements, sur la circulation du virus dans le reste du pays. Vous savez que chaque semaine, nous avons une réunion autour du président de la République pour faire le point et prendre les décisions qui s'imposent.
Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. On va tout de suite du côté de Reims, dans la Marne, où cette annonce n'est évidemment pas la meilleure des nouvelles pour débuter l'année. Vous êtes sur place, Caroline Baudry.
Oui, drôle de jour de l'an pour ces Rémoises et ces Rémois comme Olivier. Il travaille à l'hôpital auprès des malades du Covid. Avec un couvre-feu à 18h, il fait une croit sur sa bulle de décompression.
Ça ne va pas laisser énormément de temps au loisir. Moi, je cours beaucoup. Donc, d'une part, je rentre tard et d'autre part, on va m'empêcher de penser à autre chose que la maladie.
Alors ce soir, la balade dans les rues pavées du centre-ville est précieuse, raconte Patricia qui l'accompagne.
On en profite, quoi. On a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Ça semble très loin encore.
Et dès demain, il faudra s'organiser, confie David juste derrière.
Il va falloir quand même faire ses courses uniquement le week-end, éventuellement la journée, le samedi, un peu le dimanche peut-être, parce que la semaine, ça ne sera pas possible. Si, quand on est en télétravail, forcément, on ne peut pas finalement sortir.
Un nouveau rythme qu'il prend avec philosophie, prêt à accepter toutes les contraintes pour en finir avec la pandémie.
Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 à Reims. Alors concrètement, comment est-ce que tout ça sera mis en place? 18h, on l'a entendu, c'est tôt. Y aura-t-il une souplesse pour les retours de vacances? C'est la question que beaucoup de monde se pose, Adrien Beck.
Oui, alors d'abord, pas de panique. Si vous rentrez de vacances ce week-end en direction d'un de ces 15 départements, il y aura une tolérance qui s'applique pour les premiers jours de ce couvre-feu avancé. Même chose si vos enfants ont des activités extrascolaires, le temps de s'organiser. Vous pourrez aussi ensuite, bien sûr, rentrer du travail sans problème avec une attestation de votre employeur. Pour le reste, attention, attestation dérogatoire obligatoire dès 18h. Il faudra avoir un motif valable pour sortir. Alors combien de temps cela va durer? Eh bien l'objectif est d'éviter un confinement dans ces départements où la circulation du virus augmente. En tout cas, dans une semaine, le gouvernement fera un point sur ces couvre-feux avancés. Aujourd'hui, 15 départements. Demain, d'autres pourraient les rejoindre. ou en sortir.
Les précisions d'Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Les dernières données sanitaires rassurent peut-être un tout petit peu. Légère baisse encore des admissions à l'hôpital et en réanimation ce soir. Mais on n'a pas encore l'effet de la totalité des rassemblements des périodes de fêtes. Notez que les soignants âgés de plus de 50 ans pourront bien se faire vacciner dès lundi. Précision du ministre de la Santé après l'agacement d'Emmanuel Macron lors de ses vœux hier soir contre les lenteurs inutiles. Et puis triste confirmation pour le monde de la culture. Les salles de spectacle et de cinéma ne rouvriront pas le 7 janvier comme initialement espéré.
Europe 1, le journal de la nuit. Théo Manval.
À 22h05 sur Europe 1, la fête clandestine se poursuit à Lieuron, au sud de Rennes. Près de 2500 teufeurs toujours rassemblés dans des hangars. Les gendarmes attendent ce soir du renfort, mais ils ont été totalement dépassés par le nombre d'arrivants la nuit dernière. Et les habitants, les riverains sur place, ne comprennent pas. Charles Guyard y est pour Europe 1.
Un flot de voitures donc qui est arrivé vers peut-être 20h, 21h.
Des voitures, mais aussi des camions, des fourgons arrivant par centaines de toute la France et même au-delà, Belgique, Allemagne ou encore Pologne. Alors que le pays est sous couvre-feu, c'est un vrai déferlement auquel assiste impuissante Roselyne Prévert, la maire de Lieuron. Mais selon l'élu, cette impuissance, les gendarmes aussi l'ont éprouvée dès hier soir.
Il y avait une disproportion, si vous voulez, entre le nombre de participants à cette rêve partie et le nombre de gendarmes qui étaient sur les lieux. Il y avait un pressentiment qu'il y aurait eu quelque chose quelque part, mais sans savoir où.
Châteaubriant ou encore Chantepie dans la banlieue de Rennes avait d'abord été évoqué, mais c'est finalement vers Lieuron que les teufeurs ont donc convergé dans ce petit village de 800 habitants dont la population a été multipliée par 4 en l'espace de quelques minutes seulement. Toute une logistique qui s'est affinée dans les dernières heures ce jeudi, comme le raconte Justine, une participante.
Les premières informations ont été divulguées à 14h, ensuite une deuxième à 16h pour se rejoindre au convoi à Redon. Et on a attendu le couvre-feu donc ce matin à 6h pour partir. On ne voulait pas avoir d'amende.
Lorenzo aussi a évité l'amende, du moins pour l'instant, mais la satisfaction du jeune homme est ailleurs.
Bah écoutez, on est assez content quand même parce que malgré les forces de l'ordre, on est toujours là.
Toujours là et peut-être pour un moment encore, certains fêtards croisés sont eux déterminés à rester jusqu'à dimanche soir. Lieuron, Charles Guyard, Europe 1.
Alors après une tentative d'empêcher ces fêtards de s'installer qui s'est soldée par 3 blessés côté gendarmes et l'un de leurs fourgons incendiés, cette question, une évacuation est-elle possible et surtout pourquoi n'a-t-elle pas encore eu lieu, Marion Dubreuil ?
Eh bien parce que pour le moment, la préfecture d'Ille-et-Vilaine ne veut pas aller à l'affrontement. Alors oui, cette rêve partie, elle est complètement illégale, mais à l'exception de la propagation du virus, il n'y a pas de mise en danger immédiate des participants. Alors plutôt que de prendre le risque de faire monter les tensions, comme hier soir avec 3 gendarmes blessés, de provoquer un mouvement de foule, la préfecture a fait le choix d'un bouclage de la zone. S'il est possible, et heureusement, de quitter le rassemblement, il est impossible d'y accéder. 150 gendarmes ont bouclé le périmètre. Ça ne veut pas dire que la préfecture abandonne l'idée d'une évacuation forcée. Des gendarmes mobiles vont arriver en renfort, mais on peut dire qu'elle joue la montre pour intervenir quand il y aura moins de participants.
Un décryptage signé Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1 et toutes les personnes quittant la rave sont en tout cas verbalisées. Déjà 200 PV dressés à ce stade. Ailleurs en France, le couvre-feu hier soir a été plutôt bien respecté selon le ministère de l'Intérieur. 662 arrestations et plus de 6600 verbalisations quand même. On déplore aussi 2 morts. Un jeune de 25 ans qui manipulait un pétard près de Strasbourg et un autre de 27 ans tué par un tir, semble-t-il accidentel, dans une soirée costumée qui avait pour thème le monde des gangsters d'une série télé. Tout autre chose, à 22h passées de 8 minutes sur Europe 1, le Brexit est devenu réalité en ce premier jour de 2021 et avec lui le retour des formalités douanières pour les premiers camions chargés de marchandises qui ont débarqué du ferry dans le port de Calais. Maximilien Carlier en fait le bilan de cette première journée avec vous et en ce jour férié ça a été plutôt fluide. Hein.
Oui, effectivement, des poids lourds il y en a, mais pas de file d'attente, de bouchons. Il faut dire qu'on est veille de week-end, jour férié. Jean-Marc Puisseseau est le président du port de Calais. Il observe assez sereinement les premiers camions débarqués.
On attend ça depuis 3 ans déjà. On voit que ce qu'on a prévu d'organisation se met en place et que ça fonctionne.
Ce qui change, ce sont les formalités douanières. Hier encore, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, les sociétés doivent déclarer leurs marchandises en amont, avant la traversée. Isabelle Braun-Lemaire, directrice générale des douanes.
Le principal enjeu, c'est qu'on convainc toutes les entreprises d'anticiper leurs formalités et qu'on les accompagne pour le faire, parce que pour elles, c'est nouveau.
Et cela va permettre d'éviter les embouteillages, éviter l'engorgement du port. La fluidité, c'est le mot d'ordre des autorités. Et cette période calme, du coup, est plutôt utile, comme l'explique Jean-Michel Tillier. C'est le responsable pour la douane du projet Brexit.
Je pense que c'est un excellent rodage pour le moment où le trafic va reprendre selon des dimensions plus classiques.
Car d'ici une quinzaine de jours, environ environ 10 000 poids lourds vont transiter quotidiennement par Calais et Dunkerque. C'est 15 fois plus qu'aujourd'hui.
Et oui, ce sera autre chose. Merci Maximilien Carlier à Calais pour Europe 1. Et pour ceux qui prendraient l'Eurostar dans les jours qui viennent, là aussi c'est le retour des contrôles. Vous pouvez être amené à ouvrir vos bagages, notamment pour vérification de la quantité d'alcool ou de cigarettes transportées. Toujours au volet économique, 2021 sera-t-elle en fait l'année des bonnes nouvelles ? On redoute de nombreux plans sociaux pour les entreprises fragilisées par la crise. Mais Olivier Samin, les prévisions de la plupart des instituts invitent au contraire à garder le sourire.
Oui, si les prévisions des instituts de conjoncture varient dans leur ampleur, il y a un point sur lequel tous se rejoignent. L'année 2021 sera celle du rebond. Et quel rebond ? Plus 7,1% pronostique l'OFCE. Plus 5% dit de son côté la Banque de France. L'INSEE ne se projette pas sur l'ensemble de l'année, mais annonce plus 3% au premier trimestre, puis 2% au deuxième, grâce notamment aux mesures du plan de relance et à l'éclaircie provoquée par le vaccin. En temps calme, de tels pourcentages de croissance apparaîtraient totalement impensables. Sauf que nous ne sommes pas en temps calme. Le rebond de l'année qui démarre doit être mis en corrélation avec le plongeon vertigineux que l'économie française a subi en 2020. Moins 9% selon l'INSEE. Du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Si bien que même avec les prévisions de reprise les plus optimistes, on ne retrouvera pas cette année le niveau qu'atteignait l'économie française début 2020. L'OFCE, par exemple, anticipe à la fin de 2021 un PIB inférieur de 1,4% à ce qu'il était avant crise.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. En revanche, la préoccupation ce soir des producteurs de vins et spiritueux français. Ils seront reçus dans les prochains jours par le gouvernement car ils redoutent les conséquences des nouvelles taxes américaines plus 25% décidées par Donald Trump en représailles aux subventions européennes à Airbus au détriment de Boeing dans le secteur de l'aérien.
Europe 1.
2021 a commencé, mais les bonnes résolutions pour le climat semblent toujours se faire attendre. Moins de la moitié des États signataires de l'accord de Paris ont transmis leurs nouveaux engagements avant la date limite. C'était hier soir. Seulement 70 États sur 200, dont les 27 pays de l'UE, mais pas les plus gros pollueurs comme la Chine ou les États-Unis qui sont sortis de l'accord. Lui a pu prononcer la traditionnelle prière de l'Angélus depuis le Vatican. Le pape François, une fois n'est pas coutume, dans la bibliothèque du palais épiscopal, après avoir souffert d'une sciatique ces derniers jours, il a adressé, Virginie Riva, un vibrant message en cette journée mondiale de la paix.
Oui, le pape François en direct depuis la bibliothèque du Vatican afin d'éviter le rassemblement de fidèles encadré par une crèche et un sapin. Il a d'abord demandé à chacun, en pleine crise sanitaire, de prendre soin de l'autre.
Les événements douloureux qui ont marqué le chemin de l'humanité cette année, et spécifiquement la pandémie, nous enseignent combien il est nécessaire de s'intéresser aux problèmes des autres. Il est temps de se sentir tous plus frères en prenant soin les uns des autres et de la création.
Cette semaine, la commission Covid créée par le pape François a encouragé d'ailleurs dans une note chacun à se vacciner pour prendre justement soin de ceux qui ne pourront pas le faire, comme les personnes immunodéprimées. En cette journée mondiale de la paix, le souverain pontife a également appelé à prier et à trouver des solutions au conflit au Yémen.
J'exprime ma douleur et ma préoccupation pour les déchets de violence au Yémen qui entraîne la mort de victimes innocentes. Frères et sœurs, pensons aux enfants du Yémen, sans éducation, sans médicaments, affamés.
Le pape, qui dans un sourire final a souhaité une bonne année à tous et demandé de continuer de prier pour lui.
Virginie Rivam, le président algérien Abdelmajid Tebboune a promulgué le décret révisant la constitution dans le pays. Un texte censé répondre aux revendications des manifestants du Irak, le soulèvement populaire en Algérie depuis bientôt 2 ans. Il a été adopté par référendum début novembre, mais avec moins de 15% de participation. Les partisans du Irak, justement, ayant appelé à le boycotter. Un revers inédit pour Donald Trump. Ce soir, le Congrès contourne son veto sur le budget de la défense. Le Sénat, pourtant à majorité républicaine, a adopté avec plus des 2/3 des voix ce budget de 740 milliards de dollars que le président américain jugeait entre autres trop favorable à la Chine. On termine avec les sports et cette question en football. Lionel Messi va-t-il quitter le FC Barcelone ? On le pensait lié à vie avec le club qu'il a formé, mais il a refusé de prolonger son contrat et il est donc libre de signer où il veut à partir d'aujourd'hui, Julien Froment.
Exactement. Lionel Messi est arrivé au club à l'âge de 13 ans. Il en a désormais 33. Il y a tout gagné, 4 Ligues des Champions notamment. C'est une légende vivante au même titre que Johan Cruyff, Xavi ou Iniesta, eh bien, il se pose des questions sur son avenir. Le FC Barcelone traverse en ce moment une crise sportive et économique sans précédent. Seulement 6e de la Liga espagnole à 10 points du leader. La Pulga, la puce Messi, hein, c'est son surnom, est prêt à faire le grand saut, même si officiellement il a annoncé qu'il attendrait juin prochain pour décider de son avenir.
On imagine, Julien, que ça aiguise les appétits, hein, dans les rangs des plus grands clubs du monde. Qui serait potentiellement sur les rangs?
Oui, alors même si, même gratuit, car il est en fin de contrat, ben Lionel Messi, ça a un prix, son salaire est estimé, tenez-vous bien, à 51 millions d'euros par an. Mm-hmm. Alors seulement deux clubs, hein, peuvent s'aligner ou du moins se rapprocher de ce salaire, les Anglais de Manchester City et le Paris Saint-Germain. Alors City est entraîné par son ex-mentor, hein, au Barça, Pep Guardiola. Quant au PSG, son grand ami Neymar fait du lobbying pour l'attirer, mais l'Argentin pourrait prendre tout le monde à contre-pied. Il pourrait finir sa carrière de l'autre côté de l'Atlantique, en Major League Soccer, une destination qu'il a toujours fait rêver.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Et tiens, à propos du Paris Saint-Germain, le PSG dit adieu à son tout premier buteur. Bernard Guignedou est mort aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Joueur du Paris Saint-Germain entre 1970 et 72, il avait inscrit le tout premier but du PSG en compétition. C'était en national à l'époque, le 23 août 70 contre le stade Poitevin. Pour être tout à fait complet, un mot du Vendée Globe où le duo de tête creuse encore l'écart avec ses poursuivants. Yannick Bestaven mène toujours la course devant Charlie Dalin. Les deux skippers devraient profiter d'une tempête attendue au passage du Cap Horn ces prochaines heures pour accroître encore leur avance en basculant vers l'Atlantique. Le troisième concurrent est à plus de 400 000 nautiques derrière déjà. 22h16, la météo. Avec vous Anissa Haddadi, les Landes restent en vigilance orange météo France pour les crues et ailleurs on attend encore de la neige pour ce premier week-end de l'année.
Oui, dans le sud-est cette fois-ci, Théo, toujours dans les Alpes et en Provence, la neige tombe encore demain et même en plaine. Vous risquerez d'ailleurs de vous réveiller avec des sols blancs demain sur tout le quart sud-est du pays et une partie du massif central. En Corse, la pluie est toujours là demain avec des averses qui seront nombreuses toute la journée et puis dans l'après-midi, cette pluie va arriver sur la Provence. Attention, le Mistral et la Tramontane se renforcent demain du Pays Basque jusqu'à l'Alsace. Le temps est plus sec demain avec toujours des chutes de neige sur le massif central. Mais partout ailleurs, le ciel va se partager entre nuages et éclaircies et au revoir les pluies. Et puis dans le nord-ouest, sur les côtes de la Manche, toujours des giboulées. Globalement, c'est un temps plutôt sec, lumineux et agréable, sauf dans le quart sud-est, vous l'aurez compris. Les températures, elles, par contre, elles baissent bien, il va faire froid demain. Moins 7 degrés à Aurillac, moins 4 à Rodez, moins 3 pour Saint-Étienne, moins 2 à Nantes et Limoges, 0 à Strasbourg et Lyon, 3 pour Marseille, 6 à Bastia, et puis dans l'après-midi, nous aurons moins 1 degré à Saint-Étienne, 14 à Bastia, et entre les deux, 5 degrés pour Paris.
Prévision signée Anissa Haddadi. Europe 1. Vous ne bougez pas dans un instant, un peu de musique et oui, repos pour les places financières en ce 1er janvier. Et puis l'interview du nouvel an d'Emmanuel Dutheil et Elisabeth Assayag, l'humoriste et ancienne avocate Caroline Vigneault pour bien commencer l'année. 22h22 sur Europe 1, l'heure de l'interview écho avec vous Emmanuel Dutheil et avec vous ce soir Elisabeth Assayag, une invitée un peu particulière, ancienne robe noire, devenue humoriste, c'est à vous.
Caroline Vigneault, bonjour.
Bonjour, bonne année.
Bonne année. Vous êtes humoriste, actrice, mais jusqu'en 2009, vous étiez avocate. Vous avez changé de vie. Tiens, avant de commencer, petit extrait dans l'un de vos seuls en scène où vous racontez ce changement de vie.
Moi, je suis devenue avocate parce que je voulais faire comme mon modèle, Gisèle Halimi. Alors, maître Gisèle Halimi, c'est une très grande avocate, féministe, et qui s'est battue pour que le viol soit reconnu comme un crime en France. Alors c'est vrai que maître Caroline Vigneault, moi je défendais plus des voleurs de scooters, en commission d'office. Ça veut dire que les mecs me payaient en barrette de shit. Puis bon, bah au bout d'un moment, t'as un loyer à payer, donc tu revends.
Alors ça, c'était votre vie d'avant, quand oui. Vous étiez avocate. Vous en gardez quoi comme souvenir?
Ah, vraiment excellent. Moi, c'était mon premier rêve, devenir avocate. C'est assez long d'ailleurs, il y a pas mal d'études. Je savais exactement ce que je voulais faire et j'étais persuadée que c'était mon choix. Et d'ailleurs, ça l'était à l'époque, le rêve que je voulais réaliser. J'étais stagiaire dans un gros cabinet. Tous les jours, je passais devant les casiers de tous les avocats. Il y avait les casiers vides pour les prochains. Et tous les jours, tous les matins, je passais devant. Je me disais, un jour, il y aura mon nom là, un jour, il y aura mon nom là. Et on était 17 stagiaires. 17 filles, hein, toutes très jolies, c'était très bizarre d'ailleurs. À un moment, on se demandait si c'était vraiment pour nos talents qu'on avait été embauchés. Et puis, j'ai été embauchée.
Vous avez été embauché, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au sein même du métier d'avocat, déjà, vous avez changé de carrière d'une certaine manière, ce que vous le racontez, là, vous avez commencé dans un grand cabinet d'affaires qui vous faisait rêver, puis à un moment, vous avez dit non, j'ai plus envie de tout ça, vous avez fait du pénal, vous avez été commis d'office, et comme vous le racontez là très bien dans votre sketch, vous avez, oui, vraiment défendu comme ça des braqueurs, les dossiers qui vous arrivaient.
Alors, des braqueurs, non. J'étais donc commis d'office aux Assises, ça veut dire à Paris notamment, on va dire, c'est 80% de viols, 10% de braqueurs et 10% de meurtriers. Et les braqueurs, j'ai jamais pu les défendre parce que quand ils me voyaient arriver, ils voulaient pas, parce qu'ils voulaient un vrai avocat.
Ah, parce que vous étiez une fille et blonde.
Exactement. Non, la misogynie chez les braqueurs est assez étonnante.
Mmh. Donc, si avec là, à la rigueur.
Oui, en tout cas, du point de vue de l'avocate, c'était très gênant parce qu'un jour, il m'a dit. Je m'en souviens, il y en a, il m'avait dit « Si un jour je vole une baguette de pain, je t'appelle, mais là, c'est une vraie affaire. » Donc, okay. C'était assez étonnant, mais j'ai passé un concours d'éloquence qui m'a permis d'accéder aux Assises, parce que moi, je voulais plaider aux Assises en étant avocat. Et je suis passée donc des cols blancs à la criminalité. Et la première fois que vous êtes face à quelqu'un qui vous explique comment il a tué quelqu'un, c'est assez étonnant quand même.
Donc là, vous êtes avocate, vous allez plaider aux Assises, donc déjà, vous êtes entre guillemets en scène, même si ce n'est pas la même chose, mais vous exprimez votre talent d'oratrice.
Ah, oui, mais de toute façon, c'est ce qui m'a attirée dans le métier d'avocate, c'est-à-dire qu'il y avait une base depuis le début, j'ai toujours aimé parler en public, enfin, moi je me battais pour aller lire les textes à l'église, hein. Et ce n'est pas pour ce qu'il y avait écrit dans le texte que je ne comprenais pas, c'était pour ce moment magique où le prêtre me faisait signe et je me levais, et je marchais lentement pour arriver à l'hôtel pour prendre du temps. Je baissais les micros, je regardais l'assemblée. Franchement, j'avais
bien attention à l'écho, hein, ce qui est très compliqué dans une église.
C'était, j'adorais ce moment-là. Je lisais la poésie à l'école. Enfin voilà, j'ai toujours aimé prendre la parole en public. Sauf que dans mon milieu et dans mon univers, ça se fait pas trop. Et j'entendais souvent Caroline, arrête de faire ton intéressante et toi, etc. Donc le métier d'avocat, en fait, c'était assez logique.
Il s'est presque imposé à vous dans votre famille. On était avocat ou médecin, j'imagine.
Non, pas du tout.
Dans les choix de carrière.
Oui, dans les choix, enfin, des choix d'études, en fait. Il y avait avocat, médecin, maths sup, et puis c'était à peu près tout. Le reste des métiers n'existait pas, de toute façon.
Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez quand même ce déclic? Parce que vous le dites, c'était un rêve d'être avocate. Vous aimiez plaider, vous aimiez l'éloquence dans les salles d'assises. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites, non, ça ne me suffit pas et je vais sauter le pas?
La mort, c'est ça qui change tout. En fait, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Confucius qui le dit très bien. On a deux vies, la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et quand j'ai perdu mon grand-père, et que du coup j'étais à ses côtés quand il était mourant, je lui tenais la main et il ne se passait rien de ces journées à part on attendait la mort ensemble en fait. Et je me disais, qu'est-ce qu'on doit penser dans ce moment-là? En plus, c'est quelqu'un qui était très important dans ma vie. Et je me suis dit, au moment où on doit partir, c'est-à-dire qu'on sait que c'est une question d'heures, de jours, on doit faire le bilan de sa vie. Et donc, je me suis dit, j'espère qu'il a été heureux. Et après, je me suis dit, et moi, au fait? Et là, j'ai fait, pour la première fois de ma vie, un bilan. Et j'arrête pas de dire aux gens de le faire régulièrement. Ça prend 2 minutes. Vous dites, OK, je m'appelle machin. J'étais là, je suis à tel endroit dans ma vie. J'ai tant d'enfants ou pas d'enfants, ou je sais si, tel boulot. Est-ce que je suis bien? Si vous êtes bien, changez rien, continuez. Et s'il y a un truc qui va pas, dites-vous, OK, qu'est-ce qui me convient pas et pourquoi?
Et mais je comment me suis dit,
être avocate suffit pas à remplir la seule et unique vie que j'ai. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux faire d'autre?
Et comment on répond à cette question alors? Parce que c'est pas à la rigueur mettre des croix. En plus, c'est moins. Ça, on n'arrive pas à peu près tous à faire. Mais pour que le total se dise, je veux être humoriste, je veux être actrice, je veux monter sur scène.
Déjà, savoir qu'on n'est pas bien. Effectivement, il y a deux choses. Soit vous savez pourquoi et vous savez ce que vous voulez faire. Soit vous n'êtes pas bien, mais vous savez pas ce que vous voulez faire. Déjà, prenez le temps de chercher. Allez interroger des gens. Allez voir. J'avais rencontré un jour un monsieur qui avait été comptable et qui était devenu boulanger. Et quand on discute de ça, je dis c'est formidable. Il me dit non, franchement, je regrette, il faut se lever trop tôt le matin. Et je me disais, mais à quel moment? Parce que même moi, j'ai jamais voulu être boulangère, mais je sais qu'il faut se lever le matin. C'est quand même un manque de préparation minimum.
Et là, vous, donc vous avez ce déclic au moment de la mort de votre grand-père. Vous en parlez à quelqu'un?
Non.
Il se passe quoi dans votre tête?
Dans ma tête, en fait, à ce moment-là, je commence à faire aussi de la scène avec des copains le week-end d'avocats.
Pour vous amuser.
Pour nous amuser. C'est un truc assez potache qui s'appelle la revue de l'UJA, c'est l'Union des jeunes avocats. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à écrire des sketchs et à les jouer. Et puis à un moment donné, je sors de scène. Il se trouve qu'il y a eu un festival à Nantes, un gros zénith, et ils nous avaient demandé de venir faire une plaidoirie avec des copains avocats. Donc on y est allés. Et on prend un four intersidéral. C'est-à-dire que le zénith se tait. 4000 personnes qui se taisent pendant 4 minutes, je vous jure, c'est très long. Et au sortir de cette scène, je me suis dit, oh, c'est ça que je veux faire. Alors que mes copains voulaient
disparaître.
Ils voulaient creuser un tunnel jusqu'à Paris. Et je me suis dit, ils m'ont dit, vas-y, fais-le. Et j'ai écrit une lettre de démission.
Un grand, grand merci, Caroline Vigneault. Merci également à vous, Elisabeth Assaeg. Et à nouveau, très bonne année à vous tous. On se retrouve lundi pour La France Bouge. Et on sera avec Nathalie Bala, la patronne de La Redoute. Ce sera à 13h sur Europe 1.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil et Elisabeth Assaeg. Rendez-vous donc lundi, 13h, 14h. À la une de vos quotidiens demain matin, nos années 2000, les 20 ans qui ont changé le monde en première page d'aujourd'hui en France. Et ces photos évocatrices, les tours du World Trade Center en feu lors du 11 septembre 2001, le visage de Barack Obama, premier président noir aux États-Unis en 2008. Et plus près de nous, le sourire de Florence Foresti qui s'est imposée comme l'une des stars du seul en scène et de l'humour dans l'Hexagone. La force de Johnny Hallyday, micro en main, il nous a quittés en 2017. Et puis le sacre des Bleus du foot en Russie, inoubliable à l'été 2018. Le Parisien qui mise, lui, sur la fin du suspense dès ce samedi pour le Paris Saint-Germain, avec l'arrivée du nouvel entraîneur argentin Mauricio Pochettino. Enfin, le Libé des solutions à la une de Libération qui pose cette question apocalyptique l'année 2020. Bien sûr, mais elle nous aura aussi forcé, au-delà de l'épidémie meurtrière, à ouvrir les yeux sur nos vies et à nous reconstruire pour 2021. 2021, nous y sommes. Il est 22h30 en ce 1er janvier et vous avez rendez-vous avec la Libre Antenne et Sabine Marin qui s'installe. Bonsoir Sabine.
Bonsoir à vous Théo.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année ma chère Sabine.
Merci, bonne année à vous aussi Théo et on vous attend dans une demi-heure pour les prochaines infos.
A tout à l'heure, 39-21, on est avec vous jusqu'à 1h du matin.